Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Tu vis en moi, mon Dieu, et c'est un miracle. Comment est-ce possible qu'une telle chose puisse se faire? Un Dieu si puissant, si merveilleux, si universel, qui remplit l'univers, et l'univers est trop petit pour le contenir. Comment se fait-il qu'il vive en moi? Oui, il vit en moi parce qu'il remplit tout. Il vit en moi parce que il a lavé mon cœur dans son sang. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il vit en moi parce que il a voulu faire de mon cœur le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce, ô Dieu. Je ne puis comprendre, je ne puis expliquer, mais je dis merci. Merci pour tant de miracles. Merci parce que si tu vis en moi, Seigneur, alors je vivrai avec toi pour l'éternité. Je vivrai avec toi pour toujours. Ô mon Dieu, merci. Merci parce que ton œuvre est parfaite. Elle est merveilleuse. Tu vis en moi. Tu veux vivre en nous tous. Sanctifie ta parole pour nous tous maintenant, Seigneur, et ouvre nos cœurs au nom de Jésus. Nous allons lire quelques passages qui se trouvent dans la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 3, et nous lirons les versets 11 jusqu'au verset 14. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur l'évidence d'une nouvelle vie. L'amour est l'évidence d'une nouvelle vie. Tous ces dimanches, nous avons parlé sur l'amour. L'amour que nous devons à Dieu, l'amour que nous devons au prochain. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ne discernent pas et qui ne comprennent pas ce que c'est que l'évidence du salut et de la nouvelle vie. Certains, beaucoup se disent, moi je me suis joint à une église et parce que je me suis joint à cette église, je suis devenu membre, j'ai ma carte de membre, donc je suis sauvé. Il y en a d'autres qui disent, moi, je suis sauvé, oui, je crois que je suis sauvé, j'en suis sûr, enfin, je l'espère, disent-ils, parce que voilà, j'ai pris le baptême. J'ai pris le baptême pour devenir chrétien, donc je suis chrétien. Quelle sottise. Comme si c'était le baptême qui sauvait. Malheureusement, c'est une doctrine qui est répandue énormément dans notre monde dit chrétien, que pour devenir chrétien, il faut être baptisé. Or, on ne baptise pas un païen pour devenir un chrétien. On devient chrétien et on baptise un chrétien. Et comment devenons-nous un chrétien? Par la repentance. La repentance fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais certains pensent, voilà, parce que j'ai pris le baptême, bon, alors, j'espère que je suis sauvé. Ils ne peuvent dire que j'espère, parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Dans ce cas-là, il y en a d'autres Pour eux, ils pensent que ils sont chrétiens, ils sont sauvés parce qu'ils prennent la communion. Vous remarquez que chaque fois que nous prenons la communion ici à la borne, on n'avertit jamais à l'avance. Parce que nous estimons que chaque enfant de Dieu doit être prêt à tout moment. Pas seulement le dimanche quand il vient au culte, mais chaque jour de la semaine. Pourquoi? Parce que nous l'attendons, le Sauveur de gloire. Nous l'attendons. Il revient bientôt et il peut revenir, pas seulement le dimanche, mais il peut revenir n'importe quel jour de la semaine. Et nous devons toujours être prêts. D'autres pensent que, voilà, ils sont chrétiens parce qu'ils appartiennent à l'Église, bien sûr. En plus de cela, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils font des bonnes œuvres, donc ils doivent être sauvés. Du reste, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne tuent pas, ils ne commettent pas adultère, ils ne font pas de mal à leurs prochains, ils respectent leurs prochains. Donc, ils espèrent qu'à cause de cela, ils sont sauvés et que ces œuvres sont une évidence de leur salut. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui iront en enfer et qui n'ont jamais bu et qui ne se sont jamais enivrés. Tandis qu'il y en a d'autres qui seront dans le ciel et ils ont bu. Il y en a beaucoup qui ont une très haute moralité et ils n'ont jamais commis adultère. Ils ne font de mal, ils ne font pas de mal à leurs prochains et ils respectent leurs voisins. Et ils essayent de vivre une vie aussi bonne soit-elle. Mais voilà, leur problème, ce sont des propres justes. Ce sont des propres justes. Ils ne se voient pas pécheurs. Ils sont si bons. Ils ne tuent pas, ils ne volent pas, ils respectent leur prochain, ils ne commettent pas adultère, ils ne s'enivrent pas. Donc, ils sont bons. Du reste, est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ? Même pas. Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Ils sont tellement bons. Eh bien, ces gens, malheureusement, ils ne sont pas héritiers de la vie éternelle. Mais alors, quelle est l'évidence? Quelle est l'évidence de cette nouvelle vie? Quelle est l'évidence de cette nouvelle marche? Comment puis-je dire, je sais que je suis sauvé? Pourquoi puis-je dire, je sais que je suis sauvé? La Bible dit en premier lieu que nous savons que nous sommes sauvés parce que nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Oui, c'est vrai, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des gens qui confessent de la bouche, mais quant à croire du cœur véritablement, ça c'est une autre chose. Mais on ne peut pas voir ce qu'il y a dans leur cœur. Il y a des gens qui ont un magnifique langage. On appelle ça le langage de Canaan. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Du reste, quand ils sont dans une église dite de Pentecôte, ils ont le langage des pentecôtistes. C'est à s'y méprendre. Quand ils sont dans une église baptiste, ils ont les langages d'une église baptiste. S'ils sont dans une église presbytérienne, ils ont le langage d'une église presbytérienne. S'ils sont dans une église catholique, eh bien, ils se comportent comme tels. Disons que par le langage, par l'attitude extérieure, on pourrait s'y méprendre. Et on pourrait dire, lorsqu'on entend leurs prières qui sortent de leur bouche, ces gens doivent véritablement être sauvés. Mes frères, mes sœurs, on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il m'est facile de me tromper lorsque j'entends le langage qui sort de la bouche d'une personne qui a grandi dans un certain milieu chrétien et qui a subi ainsi une influence et qui a appris depuis son plus jeune âge comment prier, comment chanter, et même comment parler en langue, oui, et même comment prophétiser. Car il y a de genre de pentecôtisme là, qui ont toute l'expérience, toute la façade, mais... Le cœur, où est-il? Il y a plus. L'évidence du salut, c'est plus encore. C'est plus. La parole de Dieu dit que nous savons que nous sommes sauvés parce que nous aimons les frères. Au verset 14, nous avons lu tout à l'heure. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il peut avoir le langage, il peut avoir la carte de membre, il peut avoir l'attitude, il peut avoir le genre de prière que l'on fait. Il peut tromper les hommes, mais le Seigneur dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Beaucoup ont toutes sortes, toutes ces choses-là. Ils savent les dire, ils savent les pratiquer, mais leur cœur est lié par toutes sortes de choses mauvaises. Ils ont l'apparence, ils ont le langage, mais quand on connaît leurs œuvres, les œuvres qu'ils laissent derrière eux, ce n'est que rapine, ce n'est que colère, ce n'est que dette impayée. Quand j'entends les histoires qui me sont racontées ici, des enfants de Dieu, des enfants qui se prétendent être des enfants de Dieu, à marcher dans la lumière, à marcher avec Jésus-Christ, partout où ils passent, ils laissent des dettes. Ils laissent des dettes et ils laissent derrière eux l'amertume. Et des gens innocents doivent payer pour eux. Et après ça, avec un grand sourire, on chante des cantiques dans la maison de Dieu. Est-ce possible? Attention, mes frères! Quand vous faites cela, vous n'aimez pas votre frère. Quand vous faites cela, vous n'aimez pas votre sœur. Quand vous faites cela et que vous faites porter le fardeau de votre sottise et de votre bêtise aux autres, vous n'aimez pas, vous haïssez. Or, la parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Toutes nos actions ont des conséquences. Toutes, vous m'entendez? Et chacune de nos mauvaises actions porte conséquence à un autre, à notre frère. Et nous prouvons par là que nous ne l'aimons pas. Pourquoi? Parce que nous tournons le dos et nous poursuivons notre route, comme bon nous semble. Nous savons, dit l'apôtre, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est positif ça, nous savons, je sais que j'ai passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que j'aime mes frères de tribu, non plus que cela, mes frères de race, non plus que cela, mes frères de niveau social, d'entente, de compréhension mutuelle, plus que cela, mes frères, c'est qui? C'est celui qui est à côté de moi lorsque je marche sur la route. C'est celui qui est dans le même bureau que moi lorsque je travaille. C'est celui que je côtoie dans le taxi. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Autrement dit, c'est l'homme que je rencontre dans mon milieu chaque jour. Aimer quelqu'un qui vous est sympathique, il n'y a pas de problème. Le païen peut le faire. Aimer quelqu'un qui vous attire par son physique, par sa culture, par son langage, par son apparence, par sa politesse, c'est facile, il n'y a pas de problème. Mais aimer celui qui n'est pas aimable, c'est différent. Aimer celui qui vous fait du mal, c'est différent. Aimer celui qui vous doit de l'argent, qui ne vous le paye pas, c'est différent. Aimer, et aimer encore. Parce que là, c'est tout l'évangile. Nous savons que nous avons passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons. Il ne s'agit pas, quand l'apôtre parle de « nous avons passé de la mort à la vie », il ne s'agit pas de la mort physique, laquelle sera le dernier ennemi qui sera détruit. Il s'agit de cette mort spirituelle, séparée de Dieu, de cette mort spirituelle, dans lesquels notre prochain se trouve, celui qui n'a pas rencontré et qui n'est pas né de nouveau. Ce demi-mort jeté au bord de la route, comme nous l'avons entendu dans la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. J'en parle de la mort spirituelle. Dans la nouvelle naissance, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de Dieu. C'est à ce moment-là que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comme il est écrit, dans Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Né de nouveau veut dire participant à la vie de Dieu. Né de nouveau, ça veut dire participant à sa nature. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. La vie éternelle est la vie de Dieu. Elle devient nôtre. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Dieu. Et s'il y a vie éternelle, c'est qu'il y a Dieu. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous avons la vie éternelle. Réjouissez-vous, frères, sœurs. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle, parce que la vie éternelle est la nature de Dieu. Dans la vie naturelle, nous participons à la vie de nos parents. Nous ressemblons à nos parents. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang que nous avons reçu de nos parents. Nous avons été engendrés. Nous avons grandi dans le sein de notre mère. Et nous avons tous les gènes de nos parents. Tous les problèmes, toutes les tares, toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses, c'est rassemblé là. Nous participons à la vie de nos parents. Et nos parents, notre père Adam nous a fait héritier le gène terrible du péché qui est dans le cœur et dans la vie et dans le corps de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. Né de Dieu veut dire participant à la vie de Dieu. Son amour est alors répandu dans nos cœurs. Non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il nous donne sa nature. Et sa nature, c'est l'amour. Son amour est répandu dans nos cœurs. Et nous recevons la vie éternelle. La Bible dit que si nous n'aimons pas, nous sommes morts spirituellement. Nous ne sommes qu'un homme naturel. Mais Dieu veut faire de nous des hommes surnaturels. Au-delà du naturel. L'homme naturel aime celui qui est aimable. L'homme surnaturel aime son ennemi. L'amour de Dieu en nous est l'évidence que nous avons passé de la mort à la vie. Nous avons passé des ténèbres à sa lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il est dit dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Comment l'a-t-il fait? À travers la nouvelle naissance. Vous n'avez pas besoin de prier pour avoir de l'amour dans vos cœurs. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour avoir l'amour de Dieu dans vos cœurs. Vous êtes sauvés. L'amour de Dieu est dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Vous pouvez jeûner et prier que le Seigneur vous donne la victoire sur l'homme adamique que vous êtes. Et que l'homme nouveau, intérieur, prenne toute la place. Oui, mais vous ne pouvez pas jeûner et prier pour avoir l'amour, car l'amour, il vous l'a donné, et il l'a répandu dans vos cœurs depuis le jour où vous êtes nés de nouveau. Et il l'a répandu en abondance. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Si vous êtes incapable d'aimer celui qui n'est pas aimable, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Si vous êtes incapable de supporter, plus que supporter, d'aimer. Peut-être que vous supportez. Je dois aimer. Donc, je ne lui dirai rien. Je lui ferai un sourire. Je vais m'efforcer à être aimable. Il va m'attaquer. Ça fait rien, je me tiendrai. Si c'est un tel effort, mon frère, ma sœur, jette-toi sur ton visage. Jette-toi sur ton visage. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Tu peux te forcer à ne pas réagir, mais dans le fond du cœur, qu'y a-t-il? Peux-tu dire à celui qui t'insulte, peux-tu dire en toi-même, « Oh, j'ai pitié de toi. » Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est l'ennemi qui habite en toi. Je t'aime et je voudrais que tu sois sauvé. Si on t'insulte et qu'on te crache au visage, dis avec douceur, mon frère, je t'aime, pourquoi fais-tu cela? Tu es semblable à moi. J'étais comme toi, mais Jésus m'a sauvé. La parole dit que vous avez été sauvé de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vivez cette nouvelle vie. Vous avez passé de la mort à la vie parce que vous aimez les frères. Voilà une évidence du salut. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans vos cœurs, vous n'avez aucune évidence de votre salut. L'amour, c'est le premier fruit qui doit être vu dans un cœur régénéré où Jésus habite. l'amour du prochain. Là, il n'est pas question de religion. Non. Mais de vie éternelle, de vie nouvelle, en Dieu et par Dieu. Dieu ne va pas demander quelle est ta religion lorsque tu te tiendras devant lui. Il ne va pas te demander à quelle église as-tu appartenu, étais-tu affilié, non. Il va voir, il va te sonder si tu as vécu le genre de vie de Jésus-Christ. Il est question de vie éternelle, il n'est pas question de religion. Il est question de vie nouvelle, en Dieu et par Dieu. Et cela se manifeste par l'amour pour les frères. S'il vous plaît, aimez et aimez encore. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, l'amour de Christ nous presse. Oui. L'amour de Christ nous contraint. L'amour de Christ nous presse. Quand vous êtes né de nouveau et que vous avez passé de la mort à la vie, l'amour de Dieu qui a été répandu est déversé dans vos cœurs. Va vous presser, va vous contraindre de faire ce qui est juste, de faire ce qui est aimable, de faire ce qui est louable, de faire ce qui apporte une bénédiction au prochain. Avec Dieu, ce n'est pas la vengeance. Avec Dieu, ce n'est pas tu me frappes, je te frappe. Son amour change et transforme le cœur. Il transforme le cœur le plus dur, le plus rebelle. Et vous n'agirez plus comme avant. Désormais, tout est changé. Les actions ne sont plus les mêmes. Votre nature spirituelle est complètement changée quand vous êtes né de nouveau. Dans le naturel, vous vouliez vous venger quand on vous faisait du mal. Dans le naturel, vous vouliez porter le coup à celui qui vous portait un coup. Mais maintenant, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ça change tout. L'amour de Dieu domine la nature humaine. C'est comme cela que cela doit être. Nous sommes, selon Éphésiens 4, 23, nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et nous avons revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu. L'homme nouveau créé selon Dieu est non plus créé selon Adam. L'homme créé selon Adam, il est voleur, il est menteur, il est adultère. Il n'aime que celui qui lui est sympathique. L'homme créé selon Adam, automatiquement, il sélectionne. Il fait une sélection. Celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Il me donne beaucoup d'argent. Celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il me flatte. Celui-là, je l'aime bien parce qu'on s'entend. On s'entend dans nos relations. Nous avons des affinités. Celui-là, je l'aime bien. Il est de mon village. Celui-là, je l'aime bien, il est de ma race. J'aime me réunir avec mes gens. Ça, c'est l'homme adamique qui parle ainsi. Il fait des sélections. Nous sélectionnons. Les sélectionnons qui nous voulons aimer, avec qui nous voulons être. C'est vrai. Oh, bien sûr, nous ne pouvons pas être chaque jour avec les mêmes. Je ne peux pas être en rapport avec chacun de vous. Vous êtes trop nombreux, c'est pas vrai? C'est vrai. Mais chaque fois que nous avons un rapport, que ce soit un rapport d'amour, dans le langage, dans l'action, en toutes choses, selon que le Seigneur le désire. Car nous avons été renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et nous avons revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu. Et non plus selon Adam, il y a là un problème, oui. Il y a un problème. Notre esprit a été recréé en Dieu, et ça c'est une partie de nous qui verra Dieu. Notre esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est l'action de Dieu dans notre esprit, dans notre être intérieur. Notre esprit a été rendu à la vie. Extérieurement, ça ne se voit pas. Vous avez une personne qui naît de nouveau ce matin, à supposer. Elle pleure sur son péché. Seigneur, sauve-moi. Elle confesse son péché. Elle pleure. Seigneur, sauve-moi. Subitement, la joie et la paix et la réconciliation viennent dans son cœur. Elle est changée, elle est transformée. Mais elle est toujours dans son même corps, c'est pas vrai? Elle est toujours dans son même corps. Mais il s'est passé un miracle au-dedans d'elle. Son homme intérieur a été changé, a été transformé, est revenu à la vie, naître de nouveau, c'est ça. Parce que cet homme était mort, cette femme était morte. Un demi-mort, l'expression qu'employait Jésus. Vivant quant à la chair, mort quant à Dieu. Mais voilà, une nouvelle vie a commencé à l'intérieur. Notre esprit a été recréé en Dieu. C'est cette partie de nous qui verra Dieu et qui est sauvée. Mais nos corps et notre intelligence adamique, naturelle, nos pensées ne sont pas nées de nouveau. Nous avons le même corps, n'est-ce pas vrai? La même intelligence cérébrale qu'avant de naître de nouveau. Un même corps. Notre corps n'est pas changé. Notre corps sera changé lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil et que nous irons à sa rencontre. Nous aurons enfin ce corps changé. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore ce corps changé. Et ce n'est pas parce que nous venons à Christ et que nous nous repentons et que nous sommes nés de nouveau, que nos maladies sont entièrement parties. Gloire à Dieu lorsque ça se passe, lorsqu'il plaît à Dieu de nous guérir. Mais vous verrez cette personne qui, dans la débauche, a attrapé le sida, il vient à Jésus-Christ et se repent. Mais le sida est toujours là. C'est pas vrai? Le sida est toujours là. Vous verrez cette personne qui a une certaine maladie ou une autre maladie, que sais-je, toutes sortes de maladies qui viennent du péché ou pas du péché, mais qui sont là, dans la chair, dans le corps, marqué par le péché à cause du péché d'Adam. Il vient à Jésus-Christ, il est transformé, il est renouvelé intérieurement, mais son corps est toujours tel qu'il était. Son corps n'est pas encore régénéré. Né de nouveau, l'homme intérieur, oui, mais l'homme extérieur, il est toujours le même. Et c'est là où vient la bataille. C'est là que s'engage le combat. Qui va prendre la direction de notre vie maintenant? Qui? Notre corps, avec ses convoitises, et notre intelligence corrompue. Qui va prendre la direction de nos vies? Ou bien notre esprit, né de nouveau? Cet esprit, dans cet esprit, l'amour de Dieu a été répandu en abondance. Qui dominera en nous? Depuis que nous sommes nés de nouveau, la vengeance ou le pardon? Qui dominera? La haine ou l'amour? Qui dominera? La guerre ou la paix? Qui dominera? Le mensonge ou la vérité? Je le répète, qui dominera? L'orgueil ou l'humilité? Qui dominera? La corruption ou la sainteté? Qui dominera? Le vol ou l'honnêteté? Ah, voilà le combat que nous avons à faire face, chacun d'entre nous. Qui dominera? Né de nouveau, c'est vrai, mais ce corps adamique, il veut continuer sa vieille voie. Et pour cela, il a toujours des explications pour se justifier. Oh, ce corps adamique, il veut toujours justifier. Oui, mais vous savez, ils me doivent de l'argent. Oui, mais vous savez, ils ont assez d'argent, ils peuvent payer. Pourquoi je leur payerais ma dette? Ils peuvent le faire. Oui, mais vous savez, il a des excuses, ce corps adamique. Maintenant, qui va dominer en toi? Quand mon intelligence dit, venge-toi, rends-lui l'appareil, que vais-je répondre? Quand mon intelligence dit, prends, personne ne le saura. Du reste, tout le monde le fait. Prends, prends l'argent dans la caisse. Du reste, tout le monde prend l'argent dans la caisse. Pourquoi ne pourrais pas tu le faire? Prends, que vais-je faire? Ma nature adamique dit, profite, profite. Tout le monde profite. Pourquoi ne pas profiter? Ô Seigneur, cette nature de chair, elle ne fait pas la volonté de Dieu. Elle est perdue. Que vais-je faire? En moi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est amour me dit non, ne le fais pas. Parce que si tu prends l'argent dans la caisse qui ne t'appartient pas, tu nuis à ton frère. Le Zaïre serait différent si les gens avaient entendu cet évangile et avaient vécu cet évangile. Si tu ne refuses de te venger, sache que tu pourras toucher le cœur de ton frère et désormais tu pourras lui parler parce que tu es plus fort que lui. L'amour est plus fort que tout. Lorsque tu réponds par la bénédiction à celui qui te maudit, tu es plus fort que celui qui te maudit. Crois-moi. Lorsque tu réponds par le bien à celui qui te fait le mal, tu es plus fort que celui qui fait le mal. Il aura même honte devant toi. Et toi, tu lèveras la tête et tu lui parleras avec amour afin qu'il change. Si nous pouvions voir cela dans notre pays, le pays serait différent et le pays ne pleurerait pas. Qui a le contrôle? Sachez, mes frères, que chacune de nos actions, telles quelles qu'elles soient, a une conséquence sur notre prochain. Soit nous perdons notre prochain, soit nous le gagnons. Personne ne peut vivre pour lui-même comme dans un cocon isolé. Personne. Tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de toi. Et dans la mesure où tu sais avoir des relations avec lui, tu peux être pour lui un moyen de salut ou un moyen de perdition. Combien de personnes as-tu perdu, toi, qui m'écoutes ce matin, par ta mauvaise vie, toi qui te dis chrétien? Non, non. Tu as beau dire, ça me regarde, je peux vivre la vie que je désire, je peux faire ce que je veux avec mon argent, c'est mon argent, et je peux faire ce que je veux avec mon corps, c'est mon corps. Non, tu n'as pas le droit de le dire, car chacune de tes actions porte sur l'autre, soit pour le perdre, soit pour le gagner. Je t'en supplie, qui que tu sois, je t'en conjure, réalise la gravité de ta position devant Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Qui va prendre le contrôle en toi? Qui? L'homme nouveau ou l'homme adamique? Aime. Aime ton ennemi. Aide ton ennemi. Donne-lui à boire. Il est dans la détresse. Viens à son secours. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Car nous savons que nous avons passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'amour de Dieu nous presse, l'amour de Dieu nous contraint, et au lieu de la haine, c'est l'amour. Parce que l'amour de Dieu nous contraint, nous oblige, oui, nous contraint, fait pression sur nous contre l'homme adamique qui n'est pas changé. Seulement en ce jour, et c'est là où il y a la guerre. Qui va prendre le contrôle de ton homme adamique? Nous ne pouvons laisser la chair avec sa mauvaise façon de penser. Nous ne pouvons laisser la chair avec sa mauvaise façon de raisonner. Et cette chair ne doit pas nous dominer. Je dois laisser l'amour de Dieu s'exprimer par l'action. Cet amour de Dieu nous contraint à faire ce qui est juste. Cet amour de Dieu me pousse, me contraint à faire ce qui est juste. Laissons notre nouvelle nature s'exprimer et n'écoutons pas l'ancienne nature. L'amour de Dieu dans cette nouvelle nature nous contraint d'agir par amour. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ah, même pour Paul, il est dans ce corps de chair. Alors il dit, mais ce corps, je le traite durement. Je le tiens assujetti sous l'autorité du nouvel homme. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, oui. Il y en aura qui ont prêché aux autres et que Dieu rejettera. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai parlé en langue en ton nom. Seigneur, j'ai fait des prodiges en ton nom. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lisez dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Parce que la nature nouvelle, on l'a laissée se dépérir, on ne l'a pas nourrie. On ne lui a pas donné la communion avec son Dieu comme il fallait. On a négligé la prière, la lecture de la parole de Dieu. On a prêché la vérité, c'est vrai, mais par la chair. Cette partie de nous non régénérée, il faut la garder en soumission, en subjection. Contrôlée par l'homme nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout est devenu nouveau dans notre intérieur, dans cet esprit né de nouveau, né selon Dieu, héritier de la vie éternelle. Tout est nouveau, c'est vrai. Mais l'homme extérieur, il ne change pas en 24 heures. Il faut toute une vie pour le changer. Cet homme adamique, c'est pourquoi l'apôtre disait « Je ne suis pas encore parvenu à la perfection. » Alors qu'il était à la fin de sa vie, dans la prison à Rome, il écrivait aux Philippiens. « Je ne suis pas encore parvenu à la perfection. » Pourquoi ? Parce qu'il a encore ce combat. Il faut toute la vie. Cet homme de chair ne change pas en 24 heures. Tout est nouveau dans votre esprit. Un nouveau corps nous sera donné en ce jour. Mais pour l'instant, ce corps, nous y sommes encore. Et ce n'est pas dans ce corps que nous allons voir Dieu. Ce corps est poussière et retournera à la poussière. Ce corps de chair n'est pas notre réel nous. Vous me voyez à travers mon corps, mais ce que vous voyez, c'est quelque chose qui vieillit, les cheveux blanchissent, les rides se creusent, elles se fatiguent, et c'est quelque chose qui passe. Le réel moi, ce n'est pas ça. C'est pourquoi disait Paul dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera votre service raisonnable. Un sacrifice, ce corps de chair, il n'y a rien d'autre pour lui que la mort. Rien. Vous savez, dans le temple, lorsqu'on offrait des sacrifices, on prenait le sacrifice, on l'égorgeait et on le brûlait. Voilà ce que Dieu dit. Offrez vos corps comme un sacrifice. Et ce sacrifice sera saint et agréable à Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, 16, encore, il est dit, « Nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, oui, il vieillit, il se décrépit, il se fatigue, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour, de plus en plus beau, de plus en plus saint, de plus en plus en communion avec Dieu. » Alléluia. Voilà le réel moi, il est caché là à l'intérieur, et un jour il paraîtra. Amen. Quand Paul parle de notre nouvelle créature, il parle de l'homme intérieur, de cet homme intérieur, de cet esprit changé, de ce réel nous qui est éternel. Les choses anciennes pour lui sont passées. Mais cet homme nouveau doit influencer l'homme adamique, l'homme extérieur. Le corps, c'est la maison dans laquelle nous habitons. Le réel nous vit là-dedans. Voilà. Je dis maison, mais le terme est tente. L'apôtre Paul nous parle de cette tente. Une tente, c'est très éphémère, n'est-ce pas? Très éphémère. Il n'a pas dit un bâtiment. Vous voyez des bâtiments, vous allez quelque part en Europe, des bâtiments qui datent du 5e siècle, 6e siècle, construits avec de grosses pierres de taille. Oui, mais Dieu n'a pas employé cette expression pour nous. Une tente. Cette tente, elle vieillit. Elle vieillit, cette tente. Mais l'homme nouveau doit influencer ce corps, afin que ce corps devienne habitable par le Saint-Esprit. Les vieilles choses sont passées, et les vieilles choses passeront. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui se sanctifie encore. C'est un processus qui va continuellement en avançant, toujours plus haut. Les vieilles choses ne passent que par la prédominance de l'homme nouveau. L'état, les maladies, les mauvaises habitudes sont encore là dans le corps et l'homme nouveau doit supplanter. Je vais pleurer encore sur des fautes que je verrai dans ma vie alors que je suis né de nouveau. Je vais crier à Dieu pour son pardon et sa miséricorde. C'est vrai. Mais l'homme nouveau prendra la place de plus en plus et bientôt cette chose mauvaise disparaîtra. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Parce que ce corps voudra faire les mêmes vieilles choses d'autrefois. Mais le Saint-Esprit veut habiter dans nos corps. Et il veut que nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Autrement dit, cet homme nouveau qui est en moi, le Saint-Esprit va venir habiter avec lui dans ce corps. C'est pour cela que ce corps doit être nettoyé. Il ne peut pas rester dans un corps souillé. Notre nature adamique voudra encore se venger. Elle voudra encore mentir. Notre nature adamique voudra encore voler et convoiter. C'est pourquoi la chair ou cette maison terrestre ou cette tente doit être sous le contrôle de l'homme nouveau et du Saint-Esprit qui l'habite. L'homme intérieur doit dominer. Le corps ne doit plus dominer. Il est sous le contrôle de l'homme nouveau. Rempli d'amour. Vous pouvez être sauvé, mais votre chair désire ce qui est mal. C'est pourquoi l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et l'amour est plus fort que tout. Ça, c'est plus que la loi. Ça, c'est accomplir toute la loi. Et c'est positif. La chair doit mourir. C'est pourquoi il est dit dans Romains 13, 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Baissons la tête. Seigneur, nous avons tout un programme là devant nous. Ô mon Dieu, nous qui avons cru et qui sommes nés de nouveau, nous avons hérité d'une vie nouvelle. Seigneur, merci pour cette vie nouvelle. Que cet homme intérieur prenne toute la place et toute l'autorité, car tu as répandu en nous ton amour en abondance. Ô Jésus, il est vrai, Seigneur, que nous sommes encore dans le corps adamique, marqué par le péché. Mais Seigneur, ô Dieu, que cette nouvelle nature qui est en nous prenne autorité et prenne toute la place, afin que le corps adamique n'ait pas le dessus, mais que toi, ton esprit, la nouvelle nature, aie l'autorité en nous. Père céleste, si nous n'aimons pas, nous n'avons pas passé de la mort à la vie. Si nous n'aimons pas, nous sommes comme Caïn qui, par jalousie, a tué son frère. Nous pouvons tuer par la langue. Nous pouvons tuer par les actes mauvais. Nous pouvons tuer par les lettres pleines de poison. Nous pouvons tuer de toutes sortes de façons, pas seulement en versant le sang, mais tuer afin que l'autre soit scandalisé et qu'il tourne le dos à la grâce et soit perdu. Ô Dieu, pardonne, pardonne. Maintenant, Seigneur, nous allons prendre cette communion ensemble. Donne-nous d'examiner nos cœurs devant toi. Et que seuls, je vous exhorte, mes frères, seuls ceux qui sont nés de nouveau prennent cette communion. Vous n'êtes pas nés de nouveau, n'y touchez pas. Ce serait un mensonge. Et si vous êtes nés de nouveau et que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs en abondance et que vous aimez vos frères, Alors prenez cette communion, parce que l'amour de Dieu est actif en vous. Mais si dans vos cœurs il y a l'homme adamique qui a pris la place, ne prenez pas, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu d'abord. Que chacun examine son cœur devant Dieu, et que celui qui, devant le Seigneur honnêtement, peut prendre de cette communion à cette heure, qu'il se juge lui-même et qu'il se lève maintenant pour prendre de cette communion.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Nous guide chaque jour une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.